Cette semaine, qu'est-ce qui est descendu dans mon cœur? Je priais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, j'emporte. Ça venu clair dans ma tête. Je veux parler ce matin d'une espérance vivante en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour l'éternité en Jésus-Christ. Et c'est le message ce matin que je veux proclamer en espérant que ça va vous aider, vous encourager. Et merci ce matin pour la musique. J'ai été vraiment béni, encouragé, fortifié. J'aurais resté là, j'aurais dit, Seigneur, on n'a pas besoin de prédication un matin, la présence de Dieu, c'est tellement bon. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Alléluia, de sentir, toucher, aimer de Jésus. Merci les Lévites et tout ça. Gloire à Dieu. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais lire 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 3. 1 Pierre, chapitre 1 et le verset 3, qui nous dit... Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Seigneur, on veut te dire merci, Seigneur, ce matin pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité. Seigneur, merci, Père, parce que tu accompagnes ton Église. C'est toi qui l'as bâtie. Et ce matin, Seigneur, continue à mettre en nous, Seigneur, l'espoir, qu'il y a de l'espoir qu'un jour nous allons nous retrouver avec toi pour l'éternité. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, amen et amen. Donc, dans ce texte, vous savez, l'apôtre Pierre va bénir, il va louer, il va remercier le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour notre salut par grâce. Écoutez bien, qui fait de nous des enfants de Dieu. Selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 et le verset 10, il dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous qui, le verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. » Alléluia. Donc, nous savons que le péché nous a séparés de l'amour, nous a séparés de la grâce de Dieu, mais par la venue de Jésus-Christ, par le sang coulé à la croix de Golgotha, Dieu le Père a fait de nous une race élue. Alléluia! L'élection. Quand vous arrivez à Jésus-Christ, c'est l'élection. Vous êtes élus, enfants de Dieu. Donc, vous êtes son peuple. Nous devenons au peuple, au service de notre Seigneur. Nous sommes une nation sainte, un peuple pour lui. Donc, la grâce de Dieu nous a réconciliés avec Dieu le Père. Jésus est venu restaurer notre image brisée par le péché. Il nous a donné une nouvelle image, soit de nous repositionner, j'aime bien dire le mot, dans une nouvelle identité que nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, et nous le sommes. Alléluia! Par le salut, par grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu et qu'on fait de nous maintenant son peuple. Donc, tu vis maintenant par ton salut avec un renouveau spirituel. Le Saint-Esprit fait sa demeure en toi. Il vient mettre même le sceau de ta sécurité éternelle si tu persévères jusqu'à la fin. Maintenant, donc, c'est un changement radical. C'est un changement pour le meilleur. Et Pierre nous dit qu'on a été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, par la nouvelle naissance, maintenant, c'est important. Cela se fait dire que nous sommes nés de nouveau et que nous avons une espérance vivante. L'espérance, regardez dans le dictionnaire, c'est un sentiment de confiance en l'avenir. Et qui porte, et ce sentiment de confiance, ça nous porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire, c'est-à-dire l'espoir. C'est quoi l'espoir? Cette espérance, cette confiance, cet espoir, elle est réelle, elle est vivante, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en lui, on va mourir un jour, on va ressusciter avec lui un jour, et on va régner un jour également avec lui. Ça, c'est notre espérance vivante. Dites-moi un gros amen. J'ai une espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Déjà ici-bas, tous espèrent, j'espère c'est votre désir, de vivre l'éternité avec Jésus. Combien c'est votre espoir de vivre avec Jésus pour l'éternité? Sinon, si vous n'êtes pas là, convertissez-vous, on va faire un appel à la fin. Là. Donc, son amour, elle doit vivre en nous. Et son œuvre vit en nous. Et Pierre nous dit qu'on a cette espérance. Elle est vivante, cette espérance. Ce dépôt a été déposé dans l'amour et dans la grâce de notre Dieu. Et si vous aimez vraiment Jésus, vous allez persévérer. Dis avec moi, je vais persévérer. Je vais persévérer. Il m'aime et je l'aime. Alléluia. Malgré les vents, malgré les tempêtes de la vie, vous allez garder le cap. Malgré que ça souffre, malgré que ce n'est pas facile, donc vous savez que le meilleur est devant vous. J'espère que vous avez cet espoir-là. Malgré les combats de la vie, vous allez rechercher le royaume de Dieu. Vous allez rechercher la justice de Dieu. Vous voulez continuer à combattre le bon combat de la foi. Donc, vous voulez persévérer et vous faites violence dans votre consécration pour terminer votre course. Et Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Donc, cela, ça veut dire, pour être couronné, il faut combattre. Ça, Paul nous dit. Donc, si tu veux être couronné, il va falloir que tu combattes le bon combat de la foi. Cette espérance, elle doit nous animer. Et cette confiance-là, elle doit grandir en moi. La foi doit grandir en moi. Nous espérons nous retrouver avec Christ. Donc, le jour de votre dernier souffle, notre espoir, notre espérance, c'est d'entendre cette voix qui va nous dire « Entre bon et fidèle serviteur dans mon royaume et donc viens, repose-toi des œuvres que tu as faites. » Est-ce que vous avez cette espérance? Alléluia! Cette espérance qu'un jour, qu'on va être accueilli par Jésus-Christ pour l'éternité. Donc, de vivre l'éternité avec Christ. Cette espérance, elle est vivante. Elle vit en moi. Je le sais qu'il y a une espérance. Si je fais une vie chrétienne, parce que j'ai un espoir de me retrouver avec Jésus-Christ. Cette espérance, elle est vivante. C'est le lien entre notre présent et notre futur, je pourrais dire. Et donc, je le répète, l'espérance, c'est le sentiment de confiance en l'avenir. L'apôtre Paul a cité de quoi de fort? Philippiens, chapitre 1 et le verset 23. Écoutez bien, l'apôtre Paul qui nous dit, « Je suis pressé de deux côtés. Je le désire de m'en aller et être avec Christ, ce qui est beaucoup est le meilleur. » Paul, dans ses combats, dans ses tribulations, il dit, « Le meilleur pour moi, ça sera m'en aller, mais le Seigneur ne m'a pas encore appelé, donc je continue mon bon combat de la foi. Mais le meilleur, c'est d'être m'en aller, c'est de retrouver mon Sauveur. » Donc, Paul a cette espérance, Paul a cet espoir, son désir, son attente, c'est de se retrouver avec son Sauveur. C'est son cœur qui nous parle ici, c'est sa vie qui nous parle ici, c'est son avenir qui est devant lui. Alléluia! Paul va tout faire pour garder l'amour de Jésus-Christ dans sa vie. Son unique désir, c'est retrouver la présence de Dieu et de vivre avec pour l'éternité. Alléluia. Et ça doit nous animer. Et ça doit être dans ta vie pour toujours. Être dans ton cœur pour toujours. Qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Alléluia. Ça devrait être notre cœur de rejoindre le Seigneur. Et cette espérance, elle est réelle. Elle est vivante. Elle est touchable, je pourrais dire. Et Paul prend le mot grec pour espérance vivante qui nous parle de la vie éternelle. Donc, cette espérance, cette vie vivante, cette vie éternelle est notre confiance en l'avenir. Et cela est réel. Et le mot, Paul qui prend espérance vivante, le mot vivante, c'est le mot grec « zao ». « Zao », ça veut dire « être vivant », « avoir la vie », « revenu à la vie », conserver la vie. Donc, cette espérance, elle est vivante parce que nous sommes régénérés, nés de nouveau, délivrés de la condamnation du péché, délivrés de la malédiction du péché. Nous sommes revenus à la vie. Nous avons reçu la vie du ciel. Alléluia. Même Pierre, Pierre a dit dans Jean 6, 68, « Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, ces gens-là étaient tellement rassurés dans leur foi qu'ils disaient, à qui tu veux qu'on aille? C'est toi seul que la parole de la vie éternelle. Maintenant, tu as reçu cette vie-là, cette vie Zao, cette vie qui t'a revenu à la vie. On était mort pour nos péchés. Maintenant, nous sommes revenus à la vie par la grâce de Dieu. Donc, nous vivons dans un nouveau royaume. Tu vis dans la nouvelle culture du royaume de Dieu, dans la mentalité du royaume de Dieu. On était mort, mais par le salut, nous sommes redevenus à la vie. Hallelujah! Quelle grâce que le Seigneur nous fait! Quel amour que le Seigneur nous démontre en nous rachetant de nos péchés! Cette nouvelle vie, c'est une promesse que nous allons hériter d'un héritage de la vie éternelle. Vous savez, les gens aujourd'hui, tu vas parler de la mort, tu vas parler de ces choses-là, que les athées ne croient pas que la vie après la mort. Les gens, même dans le milieu chrétien, ne savent pas trop, c'est quoi qui se passe après la mort. On a besoin d'étudier, de réétudier, puis de montrer les textes. Mais Jésus-Christ est votre rocher. Jésus-Christ vous garantit votre salut, vous garantit votre vie éternelle si vous marchez avec lui. Alléluia! Soyez réjouis ce matin d'avoir l'espérance de quelque chose qui peut changer votre vie à tous les jours. Alléluia! Et Tite 3:7, afin que justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Et Paul nous en parle tout le long de la vie éternelle. Jésus nous a parlé de la vie éternelle tout le long de son ministère par notre adoption, par le sang de Jésus. J'ai l'espérance de cette vie-là. Écoutez bien, parce que je suis justice de Dieu. Et c'est un terme que je développe de plus en plus, parce que la justice de Dieu, c'est non seulement d'être droit à ses yeux, mais c'est d'avoir droit également à ses promesses, parce que je suis juste devant lui, et en étant juste devant lui, Dieu le Père se plaît en moi. Alléluia. C'est plus de dire que oui, je suis pardonné. Oui, tu es pardonné, mais tu as le droit à les promesses de la parole de Dieu. Tu as le droit à dire oui et amen parce que Dieu veut nous faire du bien. Alléluia. Je suis droit à ses yeux et j'ai le droit à ses promesses. À ton voisin, j'ai le droit aux promesses. J'ai le droit à mes promesses. Croyez-vous que vous avez le droit à vos promesses? Alléluia. La foi, c'est pas de douter qu'est-ce que Dieu veut vous donner. C'est pas ça, la foi. La foi, c'est de croire qu'est-ce que Dieu te donne. Ne doute pas qu'est-ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Ben, peut-être que si je fais ci, puis si je fais ça, hop, il n'y a pas de peut-être. La foi, c'est oui ou c'est non. Tranche en deux, là, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc dans la foi. C'est oui ou c'est non. Tu y crois ou tu n'y crois pas. Donc, mon héritage m'appelle à vivre sur cette terre avec la vie abondante également. Et je vais remettre les choses à sa place parce que quand on parle dans le milieu américain, canadien-américain, aux États-Unis, quand on parle de la vie abondante, on parle de l'argent. Donc, on voit tout de suite le signe de pièce parce que la vie est abondante. Mais c'est pas ça, la vie abondante. Jésus a promis à ses disciples, à ses brebis, que ses brebis vont vivre une vie abondante. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire? Une brebis va avoir la vie abondante. Donc, Jean 10:10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient quoi? Dans l'abondance. C'est pas juste l'abondance de l'argent ici, là. Maintenant que je suis ressuscité avec Christ, que je vis de nouveau avec la vie Zao, je vais vivre maintenant avec la vie Zoé, la vie en abondance. Donc, la vie Zoé, c'est la vie véritable, c'est la vie réelle, une vie où que le ciel vient t'accompagner dans ta vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, déjà, on va aller dans un autre marche. Soit, tu vas vivre une vie active, une vie vigoureuse, vouée à Dieu, une vie où Dieu se plaît en vous. Alléluia! Dieu veut se plaire en nous. La vie abondante du ciel, ce n'est pas l'argent. L'apôtre Paul est un merveilleux exemple de la vie Zoé. L'apôtre Paul a marché dans la révélation des Écritures. L'apôtre Paul a marché dans le prophétique. L'apôtre Paul a marché dans la puissance des dons spirituels. L'apôtre Paul a chassé des démons. Paul a marché avec les signes, les miracles et les prodiges. Il ne manquait rien à Paul pour faire avancer le royaume de Dieu. Malgré cela, il a passé beaucoup de temps en prison et c'est en prison que nous lisons les Éphésiens, les Colossiens, toutes ces choses-là. C'est parce que Paul a eu toute la vie abondante pour faire avancer le royaume de Dieu. Dites-moi un gros amen. Voyez-vous, changeons un peu la mentalité de juste voir ces choses-là, mais Dieu pourvoit à que l'Église puisse avancer. C'est la plus grande commission que l'Église a, c'est d'aller y faire des disciples. Alléluia. C'est le plus grand avantage qu'une Église a, c'est de gagner des disciples. Alléluia. Le plus grand zèle qui doit vous animer, c'est de gagner des âmes au Seigneur. Alléluia. Votre plus grande ambition, c'est de bâtir son œuvre. Alléluia. Et Dieu va nous donner les ressources pour bâtir son œuvre. Oui, ça va nous prendre des sous. Oui, toutes ces choses. Mais ça va nous prendre plus que ça. Allô? Donc, la fondation de ta vie chrétienne devient importante. Paul, il est mort martyr. Pourtant, on n'aime pas, mais Paul, il est quand même mort martyr. Il est quand même mort décapité, n'est-ce pas? Vous lirez sa vie. Donc, la vie Zoé que Paul, que je parle ici, Paul n'a rien manqué dans son ministère. Il n'a rien manqué pour faire avancer le royaume de Dieu. Et rien ne nous dit que nous ne souffrirons pas non plus cette terre. Donc, ceux qui disent que l'Évangile, ah, c'est juste du bonbon, moi, je n'ai jamais connu ça. Peut-être que tu vas parler avec un autre que l'Évangile est facile. Moi, je ne l'ai jamais eu facile. J'ai toujours eu des combats. Je ne suis pas pour vous, là. Ben moi, en tout cas, j'en ai connu des combats. Laisse-moi vous dire, si vous ne savez pas c'est quoi, venez de moi, je vais vous expliquer c'est quoi. La vie chrétienne, ça se réfère vraiment à la vie divine qui renferme tout son amour, toute sa grâce, tout ce que nous avons besoin, Dieu nous le donne par amour. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Écoutez bien. Rien ne manque pour faire avancer le royaume de Dieu. Cette vie Zoé m'apporte à aller dans la persévérance et me remplit d'espoir pour l'éternité. Écoutez bien, Hébreux chapitre 6, verset 19, j'espère mon frère qui n'a pas trop de misère à traduire un matin, alléluia, Hébreux 6, verset 19, qui nous dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » Donc, cette espérance, nous la possédons comme un ancre. Donc, qu'est-ce que Paul veut nous expliquer, ou l'auteur veut nous expliquer? Et l'auteur va prendre l'image d'un bateau qui va accoster à un quai. Et vous savez, quand un bateau accoste un quai, il va jeter son ancre à l'eau pour pas que le bateau parte à la dérive. Donc, le bateau a besoin d'être stabilisé. Et cette assurance vivante en Jésus-Christ vient stabiliser notre foi. Écoutez bien, cette ancre est sûre, cette ancre est solide qui vient stabiliser ma foi. Donc, le salut en Jésus-Christ que tu possèdes est sûr et solide pour que tu ne partes pas à la dérive. Alléluia! Ça vous encourage un peu de dire des choses que mon salut il est sûr que mon salut est vraiment solide pour pas que je parte à la dérive. Donc, j'aime ce récit de Paul où que Paul doit être jugé à Rome. Et Paul, bon, faut qu'il prenne le bateau. À l'époque, il n'y avait pas les avions. Et Paul va prendre un bateau. Et il y a un marin, mais qu'est-ce qu'il ne savait pas? Qu'il va être confronté à une violente tempête. Et le nom de cette tempête, vous allez retrouver ça dans Actes 27, verset 14, c'est Euraquilon. Euraquilon, acte 27, verset 14. Et dans cette tempête qu'ils vont confronter, c'est des vents violents, des vagues hautes qui vont se déchaîner sur le bateau, accompagnées de pluies torrentielles, de chutes de neige, température froide et tout cela, et remplies de bizarres. Écoutez bien, quand nous passons par les grandes tempêtes de la vie, nous passons. Combien ont passé par des grandes tempêtes? Soyons honnêtes, là. Moi, je lève les deux mains, puis je serais capable de lever mes pieds, je le ferais, là. Donc, quand nous passons les grosses tempêtes de la vie, il y a des ancres qui sont fiables pour passer les saisons. Il y a l'ancre, je vais parler juste d'un ancre ce matin, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, l'ancre de la stabilité. Donc, au sein d'une tempête, je dirais qu'on peut perdre facilement les repères. Et à cause des circonstances qui sont adverses, souvent, nous sommes désorientés. Et souvent, dans les grandes tempêtes, c'est là aussi que nous risquons de baisser les bras. Écoutez bien, c'est dans ces moments-là qu'il faut reprendre courage. Acte 27, verset 22 à 24. On va lire quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de tout décortiquer, là. Acte 27, verset 22 à 24. Maintenant, on parle, ils sont dans une tempête, là. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, à qui je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dans la tempête, écoutez bien, de la vie, on a besoin, et j'ai eu besoin, d'entendre la voix de Dieu me dire, ne crains point. Nous avons besoin d'assurance dans les tempêtes, de voir que Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia! Dieu est en train de dire, Dieu a envoyé un ange, et Dieu, l'ange de Dieu lui dit, « Dis, n'aie pas peur de la tempête, je contrôle la situation, j'ai un plan, et dans ce récit, le bateau va même sombrer, si vous faites l'histoire de ce récit, et c'est dans ces moments de grande tempête qu'il faut reprendre courage. Avec moi, c'est dans les moments de tempête que je dois reprendre courage. C'est dans ces moments-là qu'on voit les vrais chrétiens. C'est dans ces moments-là qu'on voit les gens qui sont enracinés dans leur foi. Alléluia! Tu as besoin d'être rassuré et que tu as cette assurance en Jésus-Christ où que Dieu te parle. Tu deviens droit devant Dieu. Tu vis avec Dieu. Tu as l'espoir que le Seigneur va te sortir de ta tempête. L'espérance qui t'accompagne. Alléluia! Ton angle de foi ne doit pas dépérir. Alléluia! Mais toi, ne crains point, je suis avec toi. Alléluia. Isaïe, un autre beau texte. Isaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne s'embraseront pas. Wow! Quelle parole d'encouragement! Quelle parole que nous avons de la part de Dieu de ne pas craindre les tempêtes. Alléluia. Isaïe nous parle des circonstances de la vie qui sont des combats, que si vous vivez des combats, qui ont une menace de stabiliser votre vie, de déstabiliser votre vie, votre foi. Et c'est pourquoi que Dieu te dit, quand tout s'écroule devant toi, Dieu te dit, je serai avec toi. Quand j'ai passé des temps durs, comme vous savez, avec la maladie, j'ai eu une parole un soir, j'étais vraiment à sa déprime. Vraiment, là. Vraiment, c'est un découragement. Je suis un humain, j'ai le droit de vivre mes découragements. Il y a une petite parole qui est venue dans ma tête, très claire, très nette. Et il dit, Serge, j'ai prié pour toi, papa, ta foi défaille, point. J'ai eu cette assurance que le Seigneur m'accompagnait dans mon combat. J'avais besoin de cette parole. Et c'est cette parole qui m'a relevé. Et quand je me suis levé le matin, je me suis dit, peu importe ce qui arrive, le Seigneur est au contrôle de ma vie. J'avais besoin d'une assurance et dit, Dieu, je serai avec toi. Quelle assurance! La fidélité de Dieu. Accrochons-nous à la parole de Dieu qui est remplie de promesses pour ta vie. C'est un ancre solide qui va te faire tenir ferme dans la tempête. Reste attaché à ton salut. T'as tout pour ne pas faire naufrage de la foi. Combien de gens que nous voyons qui sont plus au Seigneur, qui ont délaissé le Seigneur, peu importe les raisons, tous ont des bonnes raisons. Mais ils sont plus au Seigneur. Pourtant, ils ont tous des bonnes raisons. Mais ils sont plus au Seigneur. Ils ont fait des naufrages de la foi. Pourquoi les naufrages de la foi? Alléluia! On se laisse aller. Et attention, frères et sœurs, de votre salut, c'est un salut éternel que vous avez. On ne pense pas assez à l'éternité. Tu sais, quand tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, l'éternité, c'est loin devant toi, là. Tu sais, tu penses pas à ces choses-là. Mais plus que tu avances dans la vie, plus tu réalises le moins à faire qu'il t'en reste à faire. Fait que prépare ton avenir d'une bonne façon. Alléluia. Toi, garde l'espoir. Garde la confiance. Garde l'espérance. L'épreuve de la foi, c'est le test de la vie en Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai besoin, que tu as besoin de voir des chrétiens engagés qui continuent à s'appuyer sur le salut, sur le rocher de son salut. Alléluia. David nous dit, dans le psaume 23, verset 4 au verset 6, « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houblette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Merci, roi David, de nous avoir écrit ce psaume merveilleux. Même si tu penses dans l'ombre de l'île de la mort, même si tu ne vois pas d'espoir, la main du Seigneur est sur ta vie. La main du Seigneur est sur ta vie. Dis-le avec moi. La main du Seigneur est sur ma vie. Malgré que je marche, je vois rien. Tu sais, bon, l'avion, on a tous un peu pris l'avion. Moi, je l'ai pris plus souvent qu'à mon tour. Puis à toutes les fois, je m'assoyais, je disais, Seigneur, Saint-Esprit, que le pilote me rende à bon rive. Alléluia. Saint-Esprit, sois le pilote. Dirige l'avion. Alléluia. Je ne veux pas tomber, hein, comme on dit. Donc, mais même si je n'ai pas toujours cette assurance-là, il faut garder l'espoir qu'on va atterrir. Alléluia. Et c'est rassurant parce que le Seigneur, il est là pour te rassurer. C'est lui ton GPS. C'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va te faire atterrir. Alléluia. Sa houblette et son bâton me rassurent parce qu'il a l'autorité sur mon adversaire. Alléluia. Il veille sur ma vie comme le bon berger qui veillait sur les loups ou les autres animaux qui voulaient anéantir son troupeau. L'adversaire n'a pas le pouvoir. Moi, j'ai été loin de l'Esprit de Dieu. J'ai été consacré pour le Seigneur. Il me donner l'autorité qui fait que je suis dans l'assurance de ma victoire. Dites avec moi, j'ai l'assurance de ma victoire. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens sur le burn-out, sur la défaite, ils n'ont pas l'espérance d'être vainqueurs. Et changer votre Paul, il dit, je suis plus que vainqueur en celui qui est en Jésus-Christ. Malgré les tempêtes, malgré les vents, Paul se disait vainqueur. Voyez-vous vainqueur? Arrêtons d'avoir les grands âges. Moi, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Arrêtons et soyons certains qu'est-ce que Dieu nous donne. Soyez fiers de votre parole de Dieu. Soyez fiers des promesses qu'il vous donne. Soyez fiers, vous avez une assurance en Jésus-Christ. Jésus te dit, malgré toutes tes tempêtes, oui, le bonheur et la grâce, elle va t'accompagner à tous les jours. Oh. Wow! Malgré tout cela, ma grâce est avec toi tous les jours. Quelle assurance, quelle fidélité que nous avons en Jésus-Christ dans les moments délicats de la vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent régulièrement. Et la Bible nous dit, ne t'inquiète pas de ton lendemain, parce que ton lendemain est assuré. Garde la paix en Dieu, garde la joie, garde la tranquillité de l'esprit. Le psaume 4, verset 9. Oh, lisez-les bien si vous êtes troublés ce matin. Là. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, c'est-à-dire qu'il n'est pas troublé. Combien connaissent l'histoire de la pitoune d'un bord et la pitoune de l'autre bord? Quand je me couche, je pitonne à gauche, je pitonne à gauche, je tourne dans mon lit, je pense à toutes sortes d'affaires. Mais quand tu es rassuré dans le Seigneur, j'essaie de ne pas trop penser à mon lendemain. Pourquoi? Parce que je suis rassuré. Alléluia! Donc, si vous faites de la pitoune ce soir, rassurez-vous, le Seigneur est là pour vous endormir bien comme vous. Alléluia! Notre vie doit être remplie d'espérance des jours meilleurs. Le fait que je suis enfant de Dieu, donc, je possède cette espérance et je peux pénétrer au-delà du voile avec assurance que je peux avoir cette intimité avec Papa. Alléluia. Esprit avec esprit. Que Dieu le Père me tend la main et je peux avoir une réunion familiale avec Papa. Alléluia. J'ai besoin de cela. Alléluia. Si vous voulez votre assurance, donnez votre main d'association au Seigneur. Ça va bien aller, ces choses-là. Et moins qu'on va être influencé par les choses de ce monde également. Donc, la vie chrétienne fonctionne lorsque Jésus-Christ devient notre angle de stabilité dans chaque domaine de notre vie. Alléluia. Peu importe qu'est-ce que tu vis ce matin, l'espérance avec ton ancre qui est comme le bateau qui a trouvé sa stabilité. Hébreux, chapitre 12, verset 2. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ergonomie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et l'auteur de cette lettre nous invite à fixer nos yeux sur Jésus-Christ. Donc, Jésus est le chef, le consommateur de notre foi, et l'auteur nous demande de regarder à Jésus-Christ comme l'objet de notre foi et de notre salut. La course que Paul nous parle ici, ou le texte nous parle, qu'a commencé la foi. Jésus-Christ veut l'amener à la perfection pour que tu triomphes de ton adversaire. Jésus, sa course pour lui, écoutez bien, j'ai sorti quelques points intéressants. Pour Jésus, sa course a commencé dans le stade. Et ce stade s'étendait du ciel jusqu'à Bethléem, jusqu'au Gethsémané, jusqu'au calvaire et hors du tombeau jusqu'au ciel. Wow! Donc, du ciel jusqu'à la terre, Jésus est sorti victorieux de tout cela. Jésus n'a jamais failli à la mission. Il a gardé les yeux fixés sur la gloire à venir. Et c'est ça qu'on devrait faire, fixer sur la gloire qui s'en vient. Il y a une gloire qui s'en vient. Et la gloire va être éternelle. Alléluia! Donc, souvent, on ne s'arrête pas à ces choses-là. Mais quand on s'arrête, on dit, wow, quel avenir que j'ai devant moi! Allô? Quel avenir que j'ai! Êtes-vous content, chrétien, d'avoir un avenir aussi précieux qui est devant vous? Cette assurance de votre salut que vous fournirez, que vous ne serez pas fini en enfer, mais vous serez dans le ciel. Et Jésus a gardé cette perspective de gloire. Il a terminé sa course et cet espoir, il faut la garder. Jésus, écoutez bien, nous a prévenus que nous aurons des tribulations sur la terre. Et Jésus nous a prévenus qu'il va falloir garder la foi dans les derniers temps. Jean, chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous sommes dans une guerre spirituelle et oui, il y aura de l'adversité, oui, il y aura des tribulations, mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cela, ça veut dire que nous sommes loin pour vaincre le monde. Dis avec moi, je suis loin pour vaincre le monde. Et Paul nous exhorte également à persévérer dans la foi, de rester confiant dans la foi. Il y aura des tribulations et c'est par les tribulations que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Je ne connais pas aucun chrétien, même chrétien ou pas, qui passe pas des temps difficiles. Mais pour vous qui passez des temps difficiles et des tribulations, c'est votre formation. Oh, alléluia, on aime bénir, on aime bénir. Mais quand on parle des temps durs, on n'aime pas trop en parler. Mais pourtant, ça fait partie de votre vie. Alléluia. Hey, chrétien, je vais vous dire, si vous choisissez Jésus-Christ, choisir le bien, c'est une guerre à finir. Parce que vous ne serez pas aimé du monde. Alléluia. Vous ne serez pas aimé des gens de ce monde. Et l'auteur nous dit dans Hébreux, Hébreux 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de gloire, de témoins, rejetons tout fardeau le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Écoutez bien, Dieu nous a préparés à une course. La mort de la chair, elle doit se manifester. Écoutez bien, plus Jésus va grandir en vous, plus que je vais diminuer. Et plus les gens auront l'amour de Jésus dans votre vie, mais pour cela, il faut laisser la chair et ses caprices. Allô? Et ça, c'est le combat de toute une vie. Délaisser la chair, délaisser les caprices de la chair. Et devenir chrétien, c'est de faire passer l'intérêt du maître avant le tien. C'est-à-dire, c'est de porter sa croix. Et porter sa croix, il y a de la souffrance. C'est une course. C'est une course à finir. Il y aura des gens qui ne termineront pas leur course. 1 Timothée 1, 19. En gardant la foi, il y a une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Donc, il peut y avoir un naufrage dans la foi. On s'entend? Donc, à partir de ce moment-là, il faut que toi, tu gardes la foi. Commencer la course est quelque chose, mais terminer la course est autre chose. Alléluia. Donc, pour finir la course, nous devons courir avec persévérance, avec constance et sans relâchement. Paul va dire à Timothée, regardez bien, 2 Timothée 2, versets 3 et 5, Maintenant, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Je répète. Donc, la vie chrétienne, ça nous parle de souffrance, ça nous parle de persévérance, ça nous parle d'endurance, ça nous parle d'entraînement spirituel et de délaisser le monde et courir la bonne course. Donc, toi, cours la bonne course. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde. Sois ce soldat qui va plaire au Père. Alléluia. Aie les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Recherche les choses en haut. Recherche le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Il n'y a rien qui va nous manquer dans ces choses-là. Combat, je dirais, le bon combat de la foi. Alléluia. Porte le bon témoignage de l'Évangile. Garde la foi. Jamais la parole nous dit que Jésus va t'abandonner et te délaisser. Jamais qu'il ait dit ça. Jésus nous a dit jamais qu'il va nous délaisser et jamais qu'il va nous abandonner. C'est-tu une assurance que nous avons encore un matin de voir qu'il y a quelque chose qui est percutant? Jésus dit, fais-moi confiance et garde les yeux fixés sur celui qui t'a enrôlé. Et je vais juste dire, dernier point, la vie chrétienne, ça va demander de l'effort, ça va te demander du temps, ça va te demander de la consécration, ça va te demander de l'endurance, ça va te demander de la persévérance et ça va te demander de l'entraînement spirituel. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, aux jeunes ministres qui arrivent au ministère, qui disent « Bienvenue à l'Église de Corinthe. Tu veux des problèmes, viens-t'en. » Ça va te prendre de l'effort, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de la consécration, de l'endurance, de la persévérance. Alléluia. Et ça, c'est pour toute notre vie chrétienne. Alléluia. Donc, ceux qui disent que la vie chrétienne est facile, ben venez me donner votre recette. Moi, j'en ai pas de recette. Toute ma vie chrétienne, j'ai combattu. Maintenant, on pourra vous le dire à quel point qu'on a combattu à bien des choses. Mais la vraie vie chrétienne, c'est des vrais combats. Attendez-vous à des combats. Arrêtez de vivre dans l'eau rose. Là. C'est pas ça l'évangile. Ceux qui vous promettent de l'eau rose, là, c'est pas la bonne évangile. Vous avez une grosse chance de nous dire un gros amen. Là. Ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est de la vie rose, c'est pas la vie rose. Là. Jésus est resté fidèle, même dans tes moments difficiles. Vous savez, quand nous fixons nos yeux sur Jésus-Christ, notre perspective change parce que la parole, quand je lis ma parole, qu'est-ce que je vois? Je vois un Jésus-Christ glorifié. Il y a un Jésus-Christ victorieux. Si Jésus a eu des épreuves, t'auras des épreuves. Si tu as eu des tribulations, t'auras des tribulations. T'es pas plus grand que le maître. Alléluia. Donc, il faut rester dans cette confiance. Et Romains, je vais terminer bientôt, Romains 5, 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la justice de Dieu, je reviens, par le salut, par la grâce en Dieu, Dieu n'est pas en colère contre vous. » Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'est pas en colère contre moi, là. Nous sommes justice en lui. Donc, Jésus a déposé sa paix en vous. Il vous a donné sa paix par le salut. Donc, tu as une assurance que quand tu vis dans la paix de Dieu, je disais souvent, mais non, même si le ciel me tombera sur la tête, je suis en paix. Puis quand tu as cette paix-là, tu ne veux pas la perdre. Je ne sais pas si c'est pour vous, là, mais pour moi, en tout cas. Quand j'ai cette grande paix-là qui vient dans ma vie, je ne veux pas perdre la paix de Dieu. Je veux la garder, la paix de Dieu. Donc, si je marche dans cet esprit de repentance, de sincérité avec Dieu, on peut dire merci, Papa, pour ton salut. Alléluia. Quand nous sommes dans cette paix, votre foi grandit, votre assurance grandit, la présence de Dieu est sur vous. Tout cela vient parce que Jésus a davantage pour votre vie. Romains 5, 2, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je reviens avec l'espérance. La foi nous introduit dans la grâce puissante de Dieu. La grâce de Dieu, elle vient me transformer. La grâce de Dieu, c'est une grâce libératrice. La vraie grâce de Dieu, elle est libératrice. Elle me délivre du jugement. Elle me délivre de la condamnation. Elle me fait rassurante en Jésus-Christ. Alléluia. J'ai cette paix, comme que je viens de parler, elle me rassure. Je grandis avec lui. Je dois porter le reflet de Dieu dans ma vie. C'est la puissance de la résurrection qui vit en nous. Elle nous fait rassembler à notre Sauveur. Oh, ce que je dis, que la grâce de Dieu, en travers la persévérance, un jour nous serons face à face avec Dieu si nous persévérons. Alléluia. Donc, Romains 3, 5, verset 3, un des avant-derniers versets. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction. Donc, Paul va prendre le mot affliction. Et on peut dire affliction, c'est un mot qui nous parle quand, vous savez, quand on fait le jus de raisin, le jus des olives et tout ça, on met ça sur une presse, puis le raisin ou l'olive est broyé. Donc, c'est quelque chose de drastique là, pour les aliments, mais il ne s'agit pas ici d'une pression normale. Mais il s'agit, dans notre texte, d'une pression qui nous parle des difficultés inévitables que nous allons rencontrer dans la vie. Et dans la vie, il y a des pressions, quelque part, qui viennent nous chercher. À toutes les fois que nous sommes sous pression, nous vivons les combats. Et ça va te demander persévérance. Ça va te demander constance. Et ça va te demander patience. Et c'est un mot, patience, des fois, on ne l'a pas toujours. Mon amour, on dit patience, patience. T'es pas patient. Patience, mon amour. Donc, la patience, c'est un fruit. Allô? Et quand on est dans l'épreuve, on veut-tu donc que ça passe vite, l'épreuve, hein? On voudrait qu'on se couche, le matin, il ne pue. Oh, bonjour, travail, c'est parti. Ben non, tu te lèves encore le matin, puis tu l'as encore, ton épreuve. Donc, mais la grâce, elle donne la capacité de supporter les fardeaux. Allô? Donc la tribulation, le mot affliction, c'est tribulation. Donc, les rêves, je dirais, ne deviennent réalité si nous sommes sous pression. Je m'explique, le mot affliction, tribulation, c'est la pression. Donc, la question que je vous pose, comment je réagis face à la pression que le Seigneur peut nous mettre à travers les épreuves? Bonne question. Comment je réagis à tout ça? Je me rebelle, je me fâche, je pète mes plombs, je casse tout, parle-moi pas, je suis pas parlable. Comment on va réagir dans tout ça? Donc, cette pression-là qu'on vit, ben c'est pour nous changer. Oh, c'est bon, hein? C'est pour nous changer. T'as pas compris, m'en donner un autre. Oh, tu n'as pas encore assez, m'en donner un autre. T'as-tu compris? Et impatient, un autre petit coup. Donc, mais tout ça fait que cette patience, quelque chose de bon, ça m'apporte à développer le caractère de Jésus-Christ. Oh, j'ai rien entendu. Tout ça, ça m'apporte à développer le caractère de Jésus-Christ. On aime parler du caractère de Jésus. Pile-moi pas sur le pied parce que tu vas voir qu'elle va venir vite. La patience. Et la patience, ça produit aussi la persévérance et ça produit l'espoir que j'ai l'assurance que Jésus peut vraiment, je peux compter sur lui dans toutes mes circonstances de la vie. Et Jacques 1, verset 2 et 3, je termine là. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi ici? La patience. Donc, l'épreuve apporte la patience. La patience forge le caractère. Alléluia! Ce que j'ai appris dans ma vie chrétienne, je ne peux pas aller plus vite que le Seigneur. Et souvent, le Seigneur a plus qu'une mettre des breaks. C'est là que j'ai bien appris le mot break. Relax tes pompons, Serge. Tu ne peux pas aller plus vite. Tu n'es pas prêt. Donc, il y a des choses que le Seigneur est obligé de prendre, de dire, on va former l'ouvrier, on va le former, on va te passer au feu. Ah, ça ne sera pas facile. Non, ça ne sera pas facile. On va te mettre sur le moule, on va faire un beau moule avec toi. Mais attends-toi, ça va chatouiller la grosse orteille. Allô? On n'aime pas ça, se faire chatouiller la grosse orteille. Hein? Non, j'ai jamais voulu, je pourrais dire, en travers mes tempêtes, je savais que le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait, c'était pour mon mieux. Je savais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Chaque étape, chaque processus du changement, écoutez, s'achève par un nouveau baptême dans l'amour du Père. La transformation en travers notre persévérance, ça nous emporte plus d'amour. Allô? Je dis, mais oui, plus que tu comprends la souffrance, plus tu as ta compassion avec les autres. Allô? Plus tu vas dire, ouais, je te comprends. Donc, la joie de mon salut, alléluia, c'est de réaliser que malgré tous les temps que nous passons, tous les temps d'épreuves que nous passons, ça doit donner quelque chose dans ta vie. Le Seigneur nous a préparé pour un héritage éternel. Et je termine avec ce verset. Qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. L'héritage que Paul nous parle, ça nous montre ici dans ce verset qu'on lit, les chrétiens étaient persécutés à cette époque. Et Paul nous montre comment notre héritage, on doit l'avoir au-dessus de nos difficultés. Allô? Donc, si tu passes un temps d'épreuve, remercie le Seigneur. Si tu passes un temps d'épreuve, loue le Seigneur. Si tu passes un temps difficile, donne gloire au Seigneur, parce que ça va porter du fruit. Et le fruit qu'on doit porter, c'est cette grâce et cet amour que le Seigneur nous donne. Comprenez bien, Paul il dit, c'est là qu'il fait votre joie, quoique maintenant qu'il le faut, vous soyez attristés pour un temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça vous encourage ce matin de voir que oui, il y a de l'épreuve, mais oui, aussi, il y a un héritage. L'héritage de la vie éternelle. L'héritage d'une assurance que nous avons en Jésus-Christ. Un héritage qui nous dit, oui, je vais finir mes vieux jours avec Jésus, on peut dire ça. Et oui, mais ça, il faut que je persévère. Donc, mon héritage, elle ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Alléluia. Ce matin, on va se lever. Et on va simplement... Moi, j'ai un chant que je connaissais... On parlait des chants rétro cette semaine. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. J'aimerais qu'on puisse les chants. Vous connaissez sûrement le chant. Je pense que vous n'aviez pas besoin de fouiller bien loin, là. Donc.